savoir sûr.
Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre Haddad. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode de Tout savoir sûr, le podcast de la rédaction de RTL. Dans 3 mois, vous serez appelés à voter aux élections européennes. Ce sera le 9 juin prochain. La campagne est déjà lancée, les listes sont en train d'être constituées et je voudrais qu'on discute ensemble aujourd'hui de la liste de l'Alliance Rurale avec à sa tête Jean Lassalle.
Je ne suis jamais arrivé d'une manière apaisée nulle part,
oui,
en politique, et que pour le reste, moi-même je ne pensais pas que je allais être tête de liste comme ça.
Jean Lassalle est invité de l'émission de RTL Les Auditeurs ont la parole le 20 mars dernier. Initialement, c'est Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, qui devait porter la campagne, mais finalement, tout a été chamboulé en quelques semaines. Avant même son lancement officiel, cette liste de l'Alliance Rurale, a gâché le Rassemblement National parce qu'elle était soupçonnée d'être le fruit d'une stratégie qui a germé dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on va le découvrir ensemble. On en parle aujourd'hui avec Charles Sapin, journaliste pour le magazine Le Point. Bonjour Charles.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous publiez un livre qui s'appelle « Les moissons de la colère, une plongée dans l'Europe nationaliste ». Et aussi avec nous dans ce studio, William Galibert. Bonjour William.
Salut Marie-Pierre.
Tu es journaliste au service politique de RTL et tu suis l'Élysée et la majorité. Je reviens un instant sur le lancement de cette liste. Alors, rien ne s'est passé comme prévu, même pas le choix de la tête de liste. Et je vous propose qu'on écoute ensemble les explications de Jean Lassalle.
J'ai toujours été, excusez-moi, mais j'avais le sentiment d'être invité par une destinée.
Oui.
Une destinée, vous ne pouvez pas la couper vous-même. C'est les électeurs ou c'est la mort. Et moi, je voyais arriver de plus en plus vite le cimetière parce que j'étais désemparé. Je ne trouvais même pas de rôle dans ma vie alors que je suis père de 4 enfants, marié, ma femme est toujours là, et 3 petits-enfants. Mais il me manquait... Je voyais la France sombrer et je me trouvais en délit de fuite.
Charles Sapin, est-ce que l'Alliance Rurale et le Rassemblement National parle au même électorat?
Je suis très curieux de savoir quel sera le thermomètre de cette ruralité. Le dernier moment un peu chiffré où ça a été jaugé, très intéressante étude de l'IFOP, de Jérôme Fourquet, qui a été fait en 2020 à partir des votes de la présidentielle de 2017. Et on voit qu'en fait, ce vote est très éclaté. Les chasseurs ont voté pour 26% pour Marine Le Pen, donc elle superforme pas mal par rapport à son vote de l'époque. Mais François Fillon a 24,7%, Emmanuel Macron 25%, et même Jean-Luc Mélenchon a eu 17% des des chasseurs.
Ah oui, donc c'est très dur de définir un courant politique au sein de l'électorat des chasseurs.
Le fusil ne détermine pas forcément l'appartenance politique, mais comme il n'y aurait peut-être pas un vote footballeur ou un vote
cycliste.
Il y a 1 million de chasseurs en France. On va enfin un petit peu savoir si on vote vraiment avec son permis de chasse et sa carte électorale ou si les choses sont beaucoup plus décorrélées que ça.
Willy Schran n'est donc plus à la tête de la liste de l'Alliance Rurale, mais ça ne veut pas dire qu'il a disparu pour autant, puisque Jean Lassalle continue à le mentionner lors de ses interviews.
C'est au moment-là que j'ai rencontré Willy Schran. L'homme du Sud rencontre l'homme du Nord.
Oui. Je le rappelle, le patron de la Fédération française de chasse.
Oui, et de l'Alliance rurale.
Et de l'Alliance rurale.
Le courant est immédiatement passé.
L'interview de la tête de liste de l'Alliance rurale, Jean Lassalle, c'était sur RTL au micro d'Éric Brunet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots qui est Willy Schran et nous décrire le personnage?
Willy Schran, que ça soit, est comme un politique, est habitué au discours par rapport aux membres de sa fédération. Il est quotidiennement en lien, en contact avec des acteurs publics, que ça soit étatiques, départementaux, régionaux, où il essaie de négocier des avantages. Enfin, finalement, on est dans un mode de vie qui est très très proche. Il est très bonhomme, il en joue, il a cette rondeur, il essaye de toucher les gens par son discours. Pour rester dans le vocabulaire de la chasse, c'est pas un perdreau de l'année, quoi. C'est que ça soit pour défendre sa cause, et maintenant c'est pour défendre...
Il fait de la radio aussi, Willy Schran, il sait pousser des coups de gueule quand il faut, il sait taper habilement sur une Sandrine Rousseau, ou sur une figure écologiste quand ça va parler barbecue, chasse, etc. Enfin, il sait manier des réflexes assez primaires pour se faire entendre.
Emmanuel Macron, en tout cas, a de bonnes relations avec les chasseurs. Le président a divisé par 2 le prix du permis de chasse, de 400 à 200 euros maintenant. Pourquoi est-ce que le chef de l'État entretient un petit peu ce lien?
Il a toujours voulu afficher une proximité avec les chasseurs, même si Emmanuel Macron n'a souvent pas souhaité que ça soit très médiatisé. On se souvient, ou vous vous souvenez peut-être qu'il a fêté ses 40 ans, le président, à peine élu, à Chambord, en allant voir les chasseurs autour d'un beau tableau de chasse avec beaucoup de gibier à ses pieds en disant juste une seule chose, pas de photos s'il vous plaît. Manque de bol, les photos sont parues. Il y a tous ces gestes que tu as rappelés, Marie-Pierre, sur le permis de chasse qui n'est pas anodin. Il y a un fonds spécial qui a été créé à destination des chasseurs et au nom de la sauvegarde de la biodiversité. Enfin, il y a eu des tonnes et des tonnes de petits gestes d'amour du président envers les chasseurs. Et quand il a fallu un petit peu régler les choses, quand il y a eu un grand plan chasse qui a été annoncé, on se souvient des débats qui étaient très animés. Est-ce qu'il faut des journées sans chasse? Est-ce qu'il faut des mesures très coercitives? Et finalement, tout ça s'est terminé avec juste un rappel que ces messieurs dames qui aiment la chasse ne devaient pas boire lorsqu'ils avaient un fusil à la main. Enfin, il y a eu une volonté de protéger et de bichonner les chasseurs qui est évidente depuis 2017 et l'élection du président.
Et il y a eu un événement politique assez important. En 2018, le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, démissionne.
Vous sont présentés par Bénédicte Tassard. Bonjour Bénédicte.
Bonjour. Nicolas Hulot ne sera donc pas cet après-midi devant les ambassadeurs français réunis en ce moment à Paris. Il n'accompagnera pas non plus demain Édouard Philippe dans les Hautes-Alpes pour les Assises de l'eau. Le ministre de la Transition écologique a jeté l'éponge en début de matinée. Une démission surprise annoncée chez nos confrères de France Inter. La décision la plus difficile de ma vie, a-t-il déclaré. Je ne veux pas me mentir, je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là.
Cette démission était soudaine. Ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, n'en avaient été informés. Les raisons de cette démission ont fini par fuiter et c'est notamment en rapport avec le lobby des chasseurs. C'est ça, William ?
Oui, il y a, on va dire, une petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase Nicolas Hulot. Il y a une réunion en 2018 qui est organisée, ce qu'on appelle des réunions de haut niveau. Ça veut dire que le président va y participer, le Premier ministre va y participer. On fignole à l'époque les projets autour de la chasse. Nicolas Hulot arrive à l'Élysée. Tout le monde s'installe autour de la table. Bam, qui voilà, Thierry Coste, notre fameux lobbyiste. Et sauf que le ministre de l'écologie, à l'époque, lui, il n'avait pas du tout été prévenu de cette présence. Ça a été un élément de fureur très intime, très interne à Nicolas Hulot, qui a fait éclater sa colère à la fin de cette réunion en s'engueulant avec Thierry Coste. Voilà, la goutte de trop ou l'élément qui a fini de forger l'opinion de Nicolas Hulot. Et en fait, bon, Thierry Coste s'est un petit peu vanté d'avoir eu la tête du ministre derrière. C'est un petit peu exagéré. Derrière cette démission de Nicolas Hulot, il y avait surtout un rejet en fait pour les méthodes aussi d'Emmanuel Macron, qui lui adore mettre tout le monde dans un bocal et laisser tous les petits piranhas en train de se bouffer le nez et de voir ce qui pouvait en ressortir. Nicolas Hulot, lui, n'en pouvait plus de ces méthodes et il voyait bien que des forces agissantes étaient entraînées parfois dans son dos, que les lobbies de la chasse continuaient à avoir de l'influence sur le président, que les promesses présidentielles à son égard ne seraient pas forcément tenues. Mais c'est vrai que depuis cet épisode, voilà, Thierry Coste a pu marquer sur son CV « J'ai eu la tête d'un ministre de l'écologie ».
On le disait tout à l'heure en citant l'étude de l'IFOP. Pourquoi est-ce que le Rassemblement National se sent menacé au final par cette liste ?
Parce que c'est vrai que le Rassemblement National, quand on regarde la sociologie de ses soutiens, c'est un électorat à majorité populaire, dont beaucoup fait partie de la ruralité, donc ça peut mordre.
Oui, parce qu'on parle des chasseurs, mais là, cette liste, c'est la ruralité au sens large.
Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut souligner aussi que notamment dans la ruralité et jusqu'au cadre du Rassemblement National, il y a beaucoup d'animalistes donc qui sont très très opposés à la chasse. Donc c'est un électorat qui est assez hétérogène. Donc ils voient ça d'un mauvais œil parce que c'est vrai que au-delà même du message de la chasse, quand on écoute le discours de Willy Schren, qui est eurocritique, qui est sur bien des aspects populistes, c'est un discours qui peut se recouper avec le discours du Rassemblement National. Et l'enjeu pour le Rassemblement National, c'est d'arriver en tête lors de ces élections européennes, comme il l'avait fait en 2019, et quand bien même cette liste viendrait lui piquer 0,5, 1 point, 1 point et demi, c'est peut-être ce point et demi qui le fera passer derrière la liste présidentielle. Il faut rappeler qu'en 2019, Jordan Bardella est arrivé moins d'un point devant la liste de La République En Marche conduite par Nathalie Loiseau.
En 1999, une liste chasse, pêche, nature et tradition s'était présentée et avait recueilli un peu plus de 6%. Ça, c'était en 1999. Mais en 2024, la question qui se pose pour la liste de l'Alliance Rurale, c'est quel score peut-elle atteindre et aussi où va-t-elle siéger au Parlement européen ? Écoutez la question posée par notre auditeur Gilles à Jean Lassalle.
Ma deuxième question concerne le créneau de chasse, pêche, nature et tradition. Ça me rappelle une liste d'il y a une vingtaine d'années qui avait fait des élus au Parlement européen, qui avait fait plus de 5%. Mais ces élus-là se sont retrouvés tout seuls au milieu des 700 autres parlementaires. Ils ont dû se mettre dans les non-inscrits. Et quand on est non-inscrit dans une grosse débuleuse comme le Parlement européen, on ne fait rien. On ne fait rien d'avancer. Et je dirais, à la limite, on favorise ses adversaires. si vous étiez élu, dans quel groupe vous souhaiteriez siéger?
Vous seriez où?
Avec le groupe des macronistes actuels.
Moi, j'ai passé 15 ans non inscrit à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un a dit une seule fois que je n'en faisais pas assez? Non, on m'a toujours reproché d'en faire trop. Est-ce que quelqu'un m'a dit que j'étais resté un inconnu notoire? Non, c'est que j'étais trop connu et très combattu.
Charles Sapin, quelles sont les chances de cette liste de l'Alliance rurale? Et s'il remporte des sièges, est-ce qu'on sait dans quel groupe est-ce qu'ils peuvent siéger?
Alors, c'est très difficile de répondre aux deux questions, en fait. Je vais essayer quand même. La première question, il y a un potentiel électoral. C'est-à-dire que, notamment chez les abstentionnistes, Willy Schrein, il s'est lancé dans cette élection en faisant une analyse, c'est qu'on a une montée en puissance de débats un petit peu identitaires sur le mode de vie. C'est un peu ce que Jérôme Fourquet de l'IFOP appelle la France du barbecue contre la France du quinoa, par exemple de Sandrine Rousseau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent changer le mode de vie pour des raisons environnementales, pour des raisons de lutte contre le patriarcat, et puis il y a des gens qui sont plus conservateurs, qui veulent garder le mode de vie qu'ont connu leurs grands-parents, qu'ils ont eu par leurs parents et qu'ils aimeraient transmettre à leurs enfants. Ça passe par tout un tas de traditions et le potentiel est là, si vous voulez. C'est-à-dire que dans un climat politique très anxiogène, quand vous avez quelqu'un qui défend le bon vivre, les bonnes bouteilles de vin, l'apéro et les bonnes chères, ça peut parler à des gens. Après, il y a beaucoup de limites, hein, parce qu'il y a un potentiel, il faut qu'il se réalise. Le problème, c'est que cette liste, c'est des gens qui sont apolitiques. Il y a beaucoup d'égo. Maintenant, deuxième question, où est-ce qu'ils vont siéger? Alors ça, c'est la question à 1 million de France. Créer un groupe au Parlement européen avec d'autres listes rurales, c'est très compliqué. Il faut 25 eurodéputés et il faut des eurodéputés qui viennent de 7 nationalités différentes. Donc c'est un doux rêve. On verra comment ça va avancer, mais pour l'instant, c'est une question sans réponse.
Le vrai motif d'espoir, c'est le coût politique qui avait été réalisée en 1999 aux élections européennes. La liste s'appelait pas Alliance Rurale à l'époque, mais Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Déjà, Thierry Coste en était l'instigateur ou le directeur de campagne. Et le score qui avait été réalisé, c'était 6,77%, ce qui est très loin d'être ridicule, ce qui est un très beau score. Le seul problème, Charles l'a dit, c'est que le steak, le bon vin, la corrida, ça fait pas un programme politique et que les temps politiques que l'on traverse sont très différents de ceux de 1999.
Merci Charles Sapin, merci William Galibert. Pour cet épisode, je suis accompagnée à la réalisation par Hugo Gandon. Merci aussi à Quentin Baron aux archives. Vous pouvez écouter tous les épisodes du podcast Tout Savoir Sur, les noter et évidemment nous laisser des commentaires, on vous lit, que ce soit sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.